Vous êtes avec SBS French. Les grands titres de ce 1er novembre, les travaillistes du Queensland menés par Anastasia Palaszczuk gagnent les élections d'hier. L'espoir que la pratique du sport à grande échelle revienne dans le Victoria, mais le port du masque reste obligatoire pour le moment, avec pas de nouveaux cas de coronavirus ou de décès depuis hier. Anastasia Palaszczuk, chef du Parti travailliste, remporte les élections de l'État du Queensland, devenant ainsi la première femme de l'histoire politique du pays à remporter 3 élections de suite. Le chef du Parti national libéral, Deb Frecklington, a concédé sa défaite hier soir et a l'intention de conserver son poste comme leader de l'opposition. Alors que le décompte des voix se poursuit, Madame Palaszczuk a déclaré aux partisans de son électorat qu'elle était confiante de gouverner avec une majorité de sièges.
For many Queenslanders, I know it's been an incredibly tough year. It's been tough not being able to see your family and friends in other states or even around the world as we've been in the midst of a global pandemic. But here in Queensland, we've all stood strong and united. And together we're on top of the pandemic. And if we continue to work together, we will stay strong.
Le Parti travailliste est en passe d'obtenir 49 sièges, soit un de plus qu'avant les dernières élections. La LNP devrait conserver au moins 32 sièges au Parlement de 93 sièges. Lors du dernier Parlement, l'opposition avait obtenu 38 sièges. La position de bloquer la frontière avec la Nouvelle-Galles du Sud a souvent été critiquée par les adversaires de Mme Palaszczuk, alors que le Queensland marque plus de 50 jours sans infection de coronavirus contractée localement. S'adressant sur Sky News, la travailliste Kate Jones a déclaré que les résidents du Queensland ont reconnu que les actions de la chef du gouvernement les ont gardés en sécurité.
This has been a huge result for Anastasia. I think for her personally, she feels vindicated. She's had an extremely tough year with many, many leaders from across the country, including the Prime Minister, saying she was wrong on the borders. And what we've seen overnight is Queenslanders overwhelmingly said that she made the right call and have backed her.
Les autorités du Victoria ont annoncé un retour au sport à grande échelle, mais elles mettent en garde contre toute complaisance. Cela survient alors que le Victoria enregistre sa deuxième journée consécutive de pas de nouvelles infections de coronavirus ou de décès. Le chef adjoint du Victoria, James Merlino, a dévoilé un financement de plus de 45 millions de dollars pour le sport pour enfants, destiné aux enfants qui en ont le plus besoin. Le chef de la santé du Victoria, Brett Sutton, déclare qu'il est convaincu que le sport en salle pour les adultes et les enfants sera autorisé d'ici la fin de l'année. Cependant, le professeur Sutton affirme que le port du masque dans le Victoria restera obligatoire pendant un petit moment.
Clearly, we should be transitioning and we will be transitioning from universal mask wearing to maybe indoors only to maybe just high-risk settings at the appropriate time. But masks are again, a small impost for the individual, for us collectively, to get us to the freedoms that we're all looking for and beginning to enjoy.
Les Australiens sont rappelés de prendre soin de leur santé mentale dans le cadre d'une nouvelle campagne de 10 millions de dollars lancée par le gouvernement fédéral. La campagne How's Your Head Today encourage les gens à donner la priorité à leur santé mentale et à demander de l'aide. La campagne a été lancée ce dimanche. Le ministre de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que la pandémie de coronavirus avait affecté la santé mentale de nombreux Australiens, en particulier les habitants du Victoria, dans un contexte d'isolement et de stress financier. Greg Hunt déclare que les informations seront adaptées aux différentes communautés avec des publicités imprimées et radiodiffusées dans plusieurs langues.
This campaign is in 15 different languages, and so that's been a very important part of it. So we've been working with community members from culturally and linguistically diverse communities.
Un nombre record de parents font vacciner leurs enfants pendant la pandémie, notamment parmi les peuples autochtones. Le taux de vaccination des enfants australiens de 5 ans est passé à 94,9%, juste en dessous de l'objectif du gouvernement de 95%. Dans les communautés aborigènes et du détroit de Torres, le taux d'enfants recevant le vaccin est passé à 97%. Le gouvernement fédéral investit plus de 400 millions de dollars dans le programme national de vaccination pour protéger les jeunes Australiens vulnérables. Le gouvernement est sous pression pour faire plus pour lutter contre le changement climatique. À la suite du rapport final de la Commission royale sur les feux de brousse, le rapport indique que le changement climatique entraîne des conditions de météo plus extrêmes, provoquant des conditions d'incendie catastrophiques. L'opposition fédérale demande au gouvernement d'adopter les recommandations de la Commission et de s'engager à atteindre un objectif de zéro émission nette d'ici 2050. La porte-parole du Parti travailliste pour l'environnement, Terry Butler, a déclaré à l'ABC que le gouvernement devrait prendre des mesures urgentes contre le changement climatique.
Their track record is terrible. They, as the government, need to tell Australians what they intend to do to make sure that we play our part in reducing emissions.
But should Australia be doing
climate
more?
Climate change is a problem that needs to be seriously addressed.
Et en France, maintenant, un prêtre orthodoxe de nationalité grecque a été pris pour cible à deux reprises au fusil à canon. Hier à Lyon, le prêtre était en train de fermer son église. Il est grièvement blessé. Précision de Marion Kazanov pour Radio France Internationale.
Un homme a été interpellé à Lyon. Il pourrait s'agir de la personne qui a tiré sur un prêtre orthodoxe cet après-midi. Gravement blessé, ce prêtre fermait son église lorsqu'il a reçu ses balles. L'église de Grèce a dénoncé ce soir une horreur qui dépasse la logique humaine. Des faits qui surviennent deux jours après l'attaque au couteau dans une basilique de Nice qui a fait 3 morts. Et alors que le Premier ministre Jean Castex était en déplacement à Saint-Étienne-du-Rouvray où un prêtre catholique avait été assassiné dans son église en 2016. Le Premier ministre a réaffirmé la détermination du gouvernement pour sécuriser les lieux de culte.
Je me suis rendu aujourd'hui à Rouen et ici à Saint-Étienne-du-Rouvray avec Madame la ministre des Armées pour m'assurer du déploiement des forces de sécurité et des forces militaires supplémentaires que nous avons décidé avec le président de la République de déployer autour non seulement des lieux de culte, mais également des établissements scolaires à l'avant-veille de la rentrée. Je dois vous dire que vous devez compter sur l'entière détermination du gouvernement de la République pour permettre à tous et à chacun de pratiquer son culte en toute sécurité et en toute liberté. Notre volonté est forte, notre détermination ne faiblira pas. C'est l'honneur de la France, c'est l'honneur de la République.
Et dans l'enquête sur l'attaque de la basilique de Nice, un quatrième suspect a été placé en garde à vue. Précision de Pierre Olivier pour RFI.
Si l'on reprend la chronologie de ces arrestations, il y a d'abord eu l'interpellation d'un homme de 47 ans quelques heures seulement après l'attaque, c'était jeudi soir. Puis hier, vendredi, en fin de journée, un deuxième homme, un résident niçois de 35 ans, a été arrêté. Enfin, il y a ce troisième suspect, âgé lui de 33 ans, il était présent au domicile du deuxième homme arrêté dont il est le cousin. Ces trois personnes placées en garde à vue sont soupçonnées d'avoir été en contact physique ou téléphonique avec l'auteur présumé de l'attaque. Pour mémoire, il s'agit d'un Tunisien de 21 ans dont on sait qu'il est arrivé sur l'île italienne de Lampedusa fin septembre. En revanche, les enquêteurs perdent sa trace entre le 9 octobre et son arrivée à Nice avant-hier. Les trois suspects pourront donc peut-être éclairer les policiers sur cette zone d'ombre. Ont-ils été en contact avec lui depuis son arrivée en Italie? L'ont-ils guidé jusqu'à Nice? Tout cela devra être éclairci car pour l'instant, l'assaillant ne peut pas être interrogé. Il est toujours entre la vie et la mort à l'hôpital de Nice.
Premier week-end de confinement en France avec des tensions, des libraires en colère sont obligés de fermer. Dans certaines parties du pays, des maires résistent et autorisent des petits commerces à rester ouverts. Précision de Marine de la Moissonnière pour RFI.
Perpignan, Brive, Aubusson ou bien encore Barneville-Carteret, des maires de tous bords politiques remettent en cause l'autorité de l'État et dénoncent une mesure qu'ils jugent injuste et inéquitable. Les petits commerces et les grandes surfaces doivent être traités de la même manière, explique Gilles Platré, maire LR de Chalon-sur-Saône, pour justifier l'arrêté qu'il a pris. Mais au-delà de la distorsion de concurrence, il pointe surtout les risques au niveau sanitaire.
Vous aurez, et vous avez déjà, à certaines heures, auprès des caisses enregistreuses, des concentrations de public qui ne permettent pas le respect des gestes barrières et notamment de la distanciation sociale. Donc finalement, en voulant lutter contre l'épidémie, en fermant les petits commerces de proximité, on est en train de concentrer le public et d'aggraver le problème de la contamination et de la propagation du virus. Je pars du principe qu'il vaut mieux que 25 magasins accueillant chacun 4 clients soient ouverts que de retrouver 100 clients dans le même magasin, fût-il une grande surface.
Reste que ces arrêtés ne sont pas légaux. Plusieurs préfectures ont demandé aux maires frondeurs de les retirer. S'ils refusent, ce sera alors au tribunal administratif de trancher, à moins que l'Assemblée nationale n'adopte l'amendement voté jeudi soir au Sénat. Un amendement qui autorise la réouverture locale des petits commerces. L'Association des maires de France demande elle aussi que les commerces de proximité puissent rouvrir leurs portes.
L'Angleterre annonce un verrouillage national d'un mois alors que les cas de coronavirus dans le pays dépassent le million. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que les résidents seraient soumis à des restrictions strictes de rester à la maison à partir du 5 novembre prochain jusqu'au 2 décembre. Les écoles, les collèges et les universités resteront ouverts tandis que les pubs, les bars et les restaurants seront fermés. Boris Johnson prévient que des mesures sévères sont nécessaires pour éviter que les hôpitaux ne soient envahis, car l'Angleterre enregistre plus de 20 000 nouvelles infections par jour en moyenne.
The virus is spreading even faster than the reasonable worst case scenario of our scientific advisors, whose models, as you've just seen, now suggest that unless we act, we could see death in this country running at several thousand a day, a peak of mortality, alas, bigger than the one we saw in April.
7,5 millions d'électeurs appelés aux urnes hier samedi en Côte d'Ivoire pour le premier tour de l'élection présidentielle. Reportage François Hume Ferkataji pour RFI.
Dans ce centre de vote de Koumassi, les électeurs sont nombreux, certains sont arrivés 2 heures avant l'ouverture. Dans une file d'attente, l'un des rares jeunes présents à 7 heures matinale confie son admiration pour le président Ouattara.
C'est celui qui est dévoué pour son pays, qui n'est pas là pour son intérêt personnel, mais pour celui qui est là pour la population.
À quelques encablures, l'ambiance est tout autre, les bureaux sont quasiment vides et les représentants de la CEI se tournent les pouces. Cela n'entame pas la bonne humeur de Fanta Diakité, qui a tout juste trempé son doigt dans l'encre pour acter son vote d'une empreinte digitale.
Aujourd'hui, c'est un grand jour, je suis très heureuse parce qu'on a voté dans la paix, dans la tranquillité. Sans la paix, rien ne peut marcher dans la vie.
Dans le quartier voisin de Sodefia, en revanche, la colère est grande contre ce processus électoral jugé vicié. Les jeunes refusent de parler par crainte, les aînés se dévouent.
Ce président, il a fait 2 mandats. Il faut respecter la constitution. Hein. Tu finis 2 mandats, c'est écrit dans les textes. Tu finis, tu t'en vas.
Au moment de l'entretien, des individus descendent de 3 minibus créant la panique.
Ce sont eux qui créent la panique.
Ils sont armés de gourdins et se dirigent vers les habitants du quartier. Tout le monde se met à courir pour trouver refuge.
On a vu des gens descendre avec des bouteilles en main, des bois. Ils n'étaient pas du quartier. On ne les avait jamais vus auparavant. Ils sont venus nous intimider en fait, nous provoquer. Et comme personne n'a réagi, ils sont repartis.
Si la tension est montée rapidement, personne n'a été blessé. Ses opposants confient ne pas vouloir se laisser intimider.
Il ne va pas gouverner. Il ne gouvernera pas ce pays.
La CEI a 5 jours maximum pour annoncer les résultats.
Au Mexique, encore un journaliste tué, un journaliste de télévision assassiné vendredi à Ciudad Juarez, près de la frontière avec les USA. Il est le 6e journaliste tué depuis le début de l'année, comme l'explique Oriane Verdier pour RFI.
Arturo Alba Medina est mort dans sa voiture après avoir reçu au moins 11 balles dans le corps. Il venait de terminer son émission du soir sur la chaîne Multimedios Television durant laquelle il avait évoqué la corruption et la criminalité au sein de certaines forces policières. Il s'est appuyé sur des cas précis et a notamment dénoncé l'assassinat d'un mineur qui aurait été perpétré par des policiers. Pour l'heure, les motivations du meurtre d'Arturo Alba Medina ne sont pas connues. Elles le sont de toute façon rarement officiellement dans ce pays où plus de 200 journalistes sont morts depuis l'an 2000, dont 23 dans l'état de Chihuahua où résidait Arturo Alba Medina. Ce dernier avait 49 ans, il laisse derrière lui 2 enfants. L'ONG Reporters sans frontières dénonce la collusion des autorités et hommes politiques du pays avec le crime organisé qui menace gravement les acteurs de l'information et entrave le bon fonctionnement de la justice mexicaine. Le président lui-même s'est fait remarquer pour ses critiques récurrentes envers les journalistes. Ces derniers y voient une menace de plus à la liberté d'expression au Mexique.
Et maintenant, l'hommage à Sean Connery, l'acteur britannique, est mort à l'âge de 90 ans. Carmen Luzman, RFI.
Rien ne le prédestinait à devenir le héros glamour du cinéma d'après-guerre. Issu des bas-fonds d'Édimbourg, en Écosse, d'une famille des plus modestes, sa mère était femme de ménage, son père ouvrier, Sean Connery a dû gagner sa vie dès l'âge de 8 ans. Livreur de lait le matin, apprenti boucher l'après-midi, il abandonne l'école et s'engage dans la marine. Puis, il enchaîne toutes sortes de métiers, maçon, modèle, vernisseur de cercueils. Il se voit même proposer une carrière de footballeur avant de décrocher le rôle de sa vie parmi 600 candidats, celui du séduisant James Bond au service de Sa Majesté. Incarnation de l'élégance et du flegme britannique, Sean Connery campe le rôle de l'espion à partir de 1962 et ne le quitte que 20 ans après. Bien qu'il travaille par la suite avec Alfred Hitchcock, Steven Spielberg ou encore Jean-Jacques Hano pour Le Nom de la Rose, l'acteur écossais ne perd jamais l'accent et l'attachement à son pays, au point d'arborer le kilt même lorsqu'il a été anobli en 2000 par la reine d'Angleterre.
Et on reviendra largement sur la carrière de Sean Connery tout à l'heure dans notre série Personnages avec Émile Matasso. Coup d'œil météo pour ce dimanche 1er novembre. À Perth, il fera 21 degrés. Adélaïde, 27. Melbourne, 18. Hobart, 17. Canberra, 21. Sydney, 21. Brisbane, 33. Cairns, 33. Darwin, maximal de 35 degrés. Et à Alice Springs, maximal de 36 degrés. Un rappel des grands titres de ce 1er novembre, les travaillistes du Queensland menés par Anastasia Palaszczuk gagnent les élections d'hier. Et puis l'espoir que la pratique du sport à grande échelle revienne dans le Victoria, mais le port du masque reste obligatoire pour le moment avec pas de nouveaux cas de coronavirus ou de décès depuis hier.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.